À la une aujourd'hui, le Yémen, pays martyr, Frédéric Couteau.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Bonjour, j'ai oublié de vous dire bonjour,
mes excuses. C'est pas grave, j'étais un peu troublé. L'assassinat de l'ex-président Salé hier aura au moins permis d'attirer l'attention de la presse sur la situation apocalyptique du Yémen. Le Yémen, ce petit pays de la péninsule arabique où les combats risquent de s'intensifier et où la situation humanitaire est déjà catastrophique. Il avait miraculeusement échappé à la mort, relate le Figaro, lors de l'explosion d'une bombe placée à 5 mètres de lui dans la mosquée de son palais en 2011. Mais hier, le destin a rattrapé l'ex-président Ali Abdallah Salé, vieil autocrate de 75 ans, qui a été tué dans une attaque de ses anciens alliés, les rebelles houthistes, avec lesquels il venait de rompre. Pour Libération, sa disparition ajoute encore des incertitudes au chaos d'un pays épuisé par 3 ans de guerre. Près de 10 000 personnes y ont été tuées, alors que sévit la pire crise humanitaire au monde, selon les Nations Unies. Alors pourquoi Salé a-t-il été tué? Réponse de Libération. Deux blocs s'affrontent au Yémen. Le premier est formé par les troupes de l'actuel président, Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenu par une coalition menée par l'Arabie Saoudite. En face, les Houthis, venus du nord du pays et de confession chiite, qui se sont alliés, eux, avec les forces toujours loyales à Ali Abdallah Salé. Mais samedi, l'ex-président a cassé cette alliance et retiré son soutien aux Houthis et s'est dit prêt, dans une déclaration télévisée, à tourner la page avec l'Arabie Saoudite. C'est ce renversement qui l'a tué, pointe Libération. Sans attendre, les Houthis ont répliqué et dénoncé un coup de force et une grande trahison. Ils se sont emparés du siège de la télévision, dirigé par Salé, avant de faire exploser sa maison ainsi que celle de son neveu. Et ils ont aussi assassiné des chefs tribaux qui le soutenaient.
Libération qui s'attarde sur le parcours tumultueux de l'ancien président yéménite.
De guerre civile en guerre tribale, de révolution en sécession, il a survécu à la tête du pays à coups d'alliances, de retournements, de chantage, de confrontations, de trahison et de corruption, s'exclame Libé. Celui qui disait que gouverner le Yémen ressemblait au travail d'un charmeur de serpents avait réussi à jouer de tous les ressorts pour se maintenir en place. Sa dernière cabriole lui aura été fatale. Selon un rapport d'experts remis en février 2015 au Conseil de sécurité des Nations Unies, pointe encore Libération, Salé avait accumulé, grâce à la corruption, une fortune estimée entre 32 et 60 milliards de dollars, alors que le Yémen est l'un des pays les plus pauvres du monde arabe. Il faisait l'objet de sanctions ciblées de la part des Nations Unies, gel d'avoir et interdiction de voyage, comme le Libyen Muammar el-Kadhafi, l'Irakien Saddam Hussein ou encore le Syrien Bachar al-Assad. Ali Abdallah Salé était prêt à sacrifier son pays et son peuple pour garder le pouvoir ou, dans son cas, le reconquérir.
Autre événement qui occupe également en force les colonnes des journaux ce matin, un grand événement, Frédéric, il faut le dire, le baptême de Yuan Meng, le premier bébé panda né en France l'été dernier. Baptême présidé hier aux eaux de Beauval, dans le centre de la France, par la première dame Brigitte Macron.
Au micro, pour ce qui est de son premier discours officiel depuis qu'elle vit à l'Élysée, relate le Parisien, Brigitte Macron loue les vertus de ce petit panda, symbole d'une force et d'une détermination tranquille. Elle ose une poignée de mots en mandarin pour saluer l'amitié entre la France et la Chine. Brigitte Macron cite aussi Aristote. Le plus beau spectacle est celui que nous offre la nature, souligne l'ex-professeur de lettres.
C'est beau, c'est beau.
À première vue, l'événement pouvait paraître anecdotique, mais il est en réalité éminemment politique et diplomatique, estime le Figaro, qui rappelle que le couple Macron se rendra en Chine au début de l'année prochaine pour un voyage officiel. Il n'empêche, s'exclame le Midi Libre, n'y avait-il pas une autre cause à défendre pour le premier rendez-vous oral de Brigitte Macron? En cette période de grand froid, tout le monde a-t-il un toit? La misère ne frappe-t-elle pas à notre porte? On dira qu'il s'agit d'un peu de douceur, sans doute, mais cette sortie en campagne, sorte de marqueur de sa légitimité, a pris un beau coup de griffe. La France, qui aime les symboles, a donné à son mari l'image du président des riches. Brigitte Macron est la première dame des pandas, désormais. Ça relève bien le niveau. L'Union renchérit. Par moments, on se demande si Homo sapiens n'est pas en train de virer dégénéré. Depuis des mois, la planète n'a d'yeux que pour un bébé panda dans le baptême hier par la femme du président, entourée d'un aréopage de vice-ministres et d'ambassadeurs, aura été le fait saillant de l'actualité internationale. Il y avait plus de ferveur journalistique, déplore encore l'Union, à commenter l'événement aux eaux de Beauval qu'à analyser l'assassinat de l'ex-président du Yémen, dont les répercussions sont autrement graves.
Enfin, en cette période de célébration napoléonienne, anniversaire du sacre et de la bataille d'Austerlitz, samedi dernier, Le Monde nous fait découvrir l'héritier de Napoléon.
Il s'agit de Jean-Christophe Albéric Ferdinand Napoléon Bonaparte, l'arrière-arrière-arrière-petit-neveu du vainqueur d'Austerlitz, qu'on pourrait appeler Napoléon VII. 31 ans, beau, élégant, sportif, courtois, très photogénique. Par sa mère, une Bourbon-Sicile, l'aristocrate descend aussi de Louis XIV, des Capétiens et des Orléans. Le lys et l'abeille mêlés en un seul sang, commente le quotidien du soir. L'héritier de l'Empire n'a aucune prétention au trône. Après des études à Harvard, il est cadre supérieur d'un fonds de capital investissement. Jean-Christophe, il est charmant, mais qui le connaît ? Il est quasi invisible, regrette dans les colonnes du journal l'académicien Jean Tullard, 83 ans, spécialiste respecté de l'épopée napoléonienne. La maison impériale, à l'instar de la maison d'Orléans ou de la maison de Gaulle, est désormais peuplée de fantômes, sans grande consistance, constate encore l'académicien. C'est un monde qui disparaît, alors que le mythe de l'empereur, lui, reste bien vivant.
La revue de presse signée Frédéric Couteau, retrouvée sur notre site internet www.rfi.fr. Dans un instant, le journal, toute l'actualité africaine avec Alexis Guilleux. Restez avec nous à l'écoute de la Radio du Monde.